c'est le journal de Jacqueline Fardel. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Trop nombreux en cellule, allongés sur des matelas, même le sol, toujours plus de détenus dans les prisons françaises. Et 25 ans après sa mise en place, le bracelet électronique n'y change rien, au contraire. Les Ukrainiens résistent toujours à l'invasion russe à l'est sous les bombardements intenses. L'offensive russe qui a repris aussi sur Kharkiv, la deuxième ville du pays qui depuis 2 semaines tentait de retrouver une vie normale. En Italie, Florence et ses œuvres d'art sous surveillance, la terre tremble sur place depuis le début du mois. À Paris, cette vague rouge qui déferle, les supporters de Liverpool dans la place pour la finale de la Ligue des Champions demain. C'était l'âme électronique des années 80. Andy Fletcher, le claviériste de Depeche Mode, est décédé.
Et à 7h50, quel avenir pour le cinéma? Fréquentation des salles en baisse, le Covid est passé par là. Alors, que faut-il changer? Je pose la question à mes 3 invités maison, Laurent Delmas, Christine Masson et Corinne Pellissier, avec nous dans 20 minutes.
France Inter.
Les prisons françaises sont à nouveau au bord de la saturation.
Plus de 71 000 détenus en avril, chiffre très proche du niveau historique atteint juste avant la crise sanitaire. 71 000 détenus, c'est presque 10 000 de plus que le nombre de places disponibles dans les prisons françaises. Alors forcément, par endroit, il y a trop de monde en cellule, des détenus qui dorment sur des matelas au sol, des tensions. Comment lutter contre cette situation? Des solutions alternatives existent, comme le bracelet électronique. Il existe depuis 25 ans maintenant. Mesure mise en place aussi pour désengorger les prisons. Mais on est loin du compte, Mathilde Vinceneuf.
En cas de condamnation jusqu'à 2 ans de prison ferme, il est possible d'être placé sous surveillance électronique à domicile. Un boîtier fixé à la cheville, des horaires à respecter pour les sorties. C'est le quotidien de plus de 14 700 personnes en France. 30% de plus qu'il y a 4 ans. Alors avec cette augmentation, on aurait pu en déduire que les magistrats envoyaient moins de monde en prison. Sauf que la population carcérale ne cesse d'augmenter. Le bracelet électronique semble donc avoir incité à condamner plus sévèrement, selon Franck Olivon, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure de Paris.
On a judiciarisé plus de personnes parce qu'on savait qu'on pouvait opter pour des peines moins exigeantes que la prison. Finalement, là où les magistrats auraient pu peut-être prononcer un sursis, ils ont eu tendance à prononcer des peines fermes parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient les aménager par le biais d'un aménagement comme le bracelet électronique.
C'est un élargissement du filet pénal, explique le chercheur. En gros, le bracelet électronique n'est pas utilisé comme une mesure d'alternative à la prison, mais comme une mesure supplémentaire de privation de liberté. Résultat, selon le dernier décompte de l'administration pénitentiaire en France, plus de 86 500 personnes sont privées de liberté en détention ou à l'extérieur. C'est un record.
Le mea culpa du directeur général France de Ferrero, Nicolas Naïkov, s'exprime pour la première fois depuis le scandale dans les colonnes du Parisien ce matin. Le groupe fabrique les Kinder qui ont rendu 81 enfants malades en France en cause d'une contamination à la salmonelle dans une usine belge du groupe à Arlon. Scandale sanitaire qui a causé la perte de 40% du chiffre d'affaires du groupe sur la période de Pâques. On y revient en détail dans le journal de 8h. Fixer la feuille de route des ministres, lancer les premiers chantiers. Elisabeth Borne convoque son gouvernement ce matin à 8h30. En haut de la pile, le projet de loi sur le pouvoir d'achat.
Les combats dans l'est de l'Ukraine ont atteint une intensité maximale, selon Kiev.
Le gouverneur de la région du Donbass évoque des bombardements permanents sur Severodonetsk, verrou stratégique. Cette nuit, dans son allocution télévisée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a à nouveau accusé la Russie de pratiquer un génocide dans cette région du Donbass. Et des bombardements aussi à nouveau sur Kharkiv, la deuxième ville du pays, 9 civils au moins tués dans cette ville qui tente depuis la mi-mai de retrouver une vie normale. Les habitants ont dû à nouveau retourner aux abris. Le chantier de la reconstruction s'éloigne, chantier qui doit se faire aussi dans les esprits pour cette ville proche de la frontière russe. À Kharkiv, Nathanaël Charbonnier.
Peut-on pardonner à ceux qui ont détruit votre ville et ce que vous aimez le plus au monde? Non, jamais je ne le pourrai, répète en boucle ce vieil homme à la maison détruite. Mais la réponse est plus complexe car à Kharkiv, nous sommes à la frontière avec la Russie et qu'ici tout se mélange, comme l'explique Nadia Jda.
Mon arrière-petit-fils est en Russie et je ne peux pas le voir. Vous savez, pendant 40 ans, j'ai travaillé ici, dans une usine qui fabriquait des avions pour les Russes. À l'Est, nous sommes très liés avec la Russie. Dans mon immeuble, la moitié de mes voisins sont russes.
Sans être pro-russe, il est évident qu'à l'Est de l'Ukraine, une partie de la population ne comprend pas cette guerre. Et pour Yuri, les politiciens des deux camps ont une part de responsabilité.
Vous savez, la guerre n'est pas la faute des Russes seulement. C'est plus complexe. Tout le monde est responsable. Les Russes en premier, mais nous aussi qui n'avons pas trouvé de solution politique durant les 8 dernières années pour éviter cette guerre.
Et cette indulgence de certains pour les Russes à l'Est ne se retrouve pas à l'Ouest de l'Ukraine, qui est culturellement plus proche de l'Europe. À Kharkiv, Marc Garvenès, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
Aux États-Unis, Joe Biden se rendra dimanche à Uvalde, au Texas, après la fusillade de mardi. 21 personnes décédées, dont 19 enfants. Alors qu'à Houston, trois jours après cette attaque, le puissant lobby pro-armes, la NRA, réunit son congrès aujourd'hui. Un séisme cette nuit au large du Timor oriental, séisme de 6,1 qui pourrait provoquer un tsunami dans la région de l'océan Indien. En Italie aussi, la terre tremble. Depuis le début du mois, des secousses dans le Chianti et à Florence. Les autorités de la ville ont pris des mesures de surveillance et surveille aussi tout particulièrement les œuvres d'art, bijoux de ce berceau de la Renaissance. À Florence, le reportage de Bruce de Galzin.
Dans un café florentin en face d'une des nombreuses églises de la ville, Gilberto Saccarotti est plutôt rassurant. Il est chercheur à l'Institut national de géophysique et de volcanologie.
On ne peut pas prévoir les tremblements de terre, comme vous le savez. Mais il faut savoir qu'il y a très peu de cas de faibles tremblements de terre suivis d'une secousse importante. L'Aquila est l'un des rares cas où cela s'est produit.
L'Aquila, c'était en 2009. Une grande partie de la ville est détruite et plus de 300 personnes meurent. À Florence, dès le 6 mai et les premières secousses, la commune met à jour les plans de la protection civile. À la galerie de l'Académie, les visiteurs se pressent, passent les contrôles pour aller voir au milieu d'une foule compacte le David de Michel-Ange, surveillé, nettoyé et contrôlé continuellement, explique la directrice de l'Académie, Cécilia Holberg.
S'il devait y avoir un tremblement de terre si fort qu'il ferait tomber les 5660 kg du David, je pense que nous n'aurions plus à nous soucier de quoi que ce soit d'autre. Mais bien sûr, nous prenons soin de toutes les œuvres d'art de ce musée. Et nous sommes intervenus sur les points faibles de la structure, une partie du toit notamment, car si le plafond s'écroulait, tout l'édifice s'effondrerait.
Les travaux ont duré un an et demi et se sont terminés il y a à peine 3 mois. Si les secousses ont été ressenties même dans le musée, rien n'a bougé. À Florence, Bruce de Galzin, France Inter.
Pour faire tomber un tabou encore bien ancré, celui des règles, un festival jusqu'à dimanche à Paris, première édition du festival Sans Gêne. Parler des règles, lutter contre la précarité menstruelle, ça passe aussi par des interventions en milieu scolaire. Atelier suivi avec des terminales du lycée Sadi Carnot Jean-Bertin de Saumur à Nordenstein.
Une cup menstruelle passe de main en main dans un sens pendant qu'une culotte de règles fait le tour dans l'autre.
C'est fait que par manque de moyens, certaines femmes ne puissent pas s'acheter de protection hygiénique.
Depuis une heure, Florence Lépine de l'association Règles élémentaires explique ce que sont les menstruations, rassure sur le flux, une tasse à café de sang perdu par cycle, fait calculer aux élèves que les règles représentent 6 ans de la vie d'une femme et leur fait réaliser le budget que cela implique.
Je ne pensais pas que ça coûtait aussi cher.
Il ne se rend pas trop compte parce qu'il n'est pas lui-même concerné par les règles. C'est beaucoup de garçons qui sont dans ce cas-là.
Ouais, c'est vrai qu'il y a des professeurs qui n'en parlent pas. Souvent, c'est des hommes.
Moi, je sais que dans ma famille, j'ai de la chance parce qu'on est assez ouvert là-dessus et qu'on ne considère pas ça comme un tabou. Mais quand j'en parle avec certaines copines, non, on n'en parle pas et encore moins avec le papa, par exemple.
Ouais, c'est ça, mais le chemin est encore long, quoi.
La classe était pourtant déjà sensibilisée par leur professeur de sciences médico-sociales. Mais l'intervention de Florence Lépine remue quand même les certitudes.
Même si, selon eux, ce n'est pas tabou, dans leur entourage, au sein de leur famille, parmi leurs amis, on se rend compte qu'il y a certains tabous qui sont persistants. Il y a toujours cette question liée à la honte, à la saleté, que les règles ça pue. Et il y a également des croyances ou des superstitions comme le fait que on ne peut pas faire monter une mayonnaise quand on a ses règles. Il y a quand même plein de choses qui restent à déconstruire.
Un message qui passe d'autant mieux qu'il est concret pour ces jeunes. En France, chaque année, 130 000 élèves ratent les cours à cause de leurs règles.
Un dossier à retrouver sur franceinter.fr.
C'est le match que tous les fans de foot attendent.
La finale de la Ligue des Champions. Demain, le Real Madrid face à Liverpool. Les supporters du club anglais, réputés parmi les plus fervents au monde, vont donner de la voix. 70 000 Anglais attendus à Paris pour soutenir leur équipe. Et certains s'échauffent déjà, Nicolas Perroni.
Lorsque l'on pousse la porte de ce bar du 17e arrondissement, pas de doute, on entre dans l'univers des Reds. Richie et ses 4 amis vivent en Australie, ils viennent d'atterrir et pour se remettre du voyage, direction ce QG parisien de supporters du club anglais.
Là, c'est le calme avant la tempête. Mais vous allez voir une invasion rouge dans toute la ville. Nous, on a fait 17 heures d'avion. Alors imaginez tous ceux qui ne sont qu'à une heure.
Il est le seul du groupe à avoir un billet pour le match. Ses amis comme Yin iront dans la fan zone sur le cours de Vincennes. Mais pour rien au monde, ils n'auraient raté ça.
Les gens viennent pour l'atmosphère, pour vivre quelque chose de grand. Et ils viennent avant, ils ne viennent pas que pour le match. Vous ne voyez pas ça avec d'autres équipes. Il faut le voir pour le croire. Le foot, c'est une religion à Liverpool.
Comme pour le Real Madrid, 22 000 billets leur sont réservés pour la finale, mais 60 000 supporters de Liverpool sont attendus d'ici demain soir à Paris. L'hymne incontournable du club ne résonnera pas qu'au Stade de France.
Finale de la Ligue des Champions, donc demain, Real Madrid face à Liverpool et 6800 policiers mobilisés pour assurer la sécurité autour de l'événement. On prolonge le plaisir à Roland-Garros, il prolonge le plaisir. Le futur retraité du tennis, Gilles Simon, qualifié pour le troisième tour. Qualification aussi de Léolia Jean-Jean, Hugo Gaston et Alizé Cornet. Ils rejoignent Diane Parry qui tentera cet après-midi de poursuivre son rêve sur les courts face à l'américaine Stevens. C'est toute l'âme d'un groupe mythique des années 80 qui disparaît. Andy Fletcher, dit Fletch, le claviériste de Depeche Mode, décédé à 60 ans. Il était l'un des membres fondateurs du groupe fleuron anglais des années New Wave, Mathieu Culeron.
Sans Andy Fletcher, pas de Depeche Mode. Le musicien était avant tout l'âme électronique du groupe anglais, originaire de Basildon. Andrew John Leonard Fletcher naît le 8 juillet 1961 à Nottingham. Il monte à la fin des années 70 le groupe No Romance in China avec son copain de classe Vince Clarke. C'est lui qui rencontre Martin Gore, le futur compositeur de Depeche Mode, dans un pub en 1980. Un trio électronique se forme alors sous le nom de Composition of Sound. Le synthétiseur est au cœur du groupe et ne le quittera plus. Dave Gahan remplace finalement Dave Clarke au chant et Depeche Mode sort son premier album en 1980 avec un tube I Just Can't Get Enough. Si aucune chanson de Depeche Mode ne lui sera créditée, il est particulièrement respecté de la scène électronique actuelle et passée. Un temps en charge du management du groupe, Andy Fletcher brillait par son attitude imperturbable, loin du tumulte de la notoriété. Il occupe le poste de DJ dans de nombreux festivals, jouissant de sa réputation d'expert de l'électro des années 80. Membre fondateur de Depeche Mode, il disparaît à l'âge de 60 ans. Sur les réseaux sociaux, le groupe se dit choqué et empli d'une incroyable tristesse. I just can't get enough.
Les notes de Depeche Mode, la mort d'Andy Fletcher hier à 60 ans.
Merci à vous, Jacqueline Fardel, pour ce journal. L'édito politique est à suivre.